Alors, je suis en compagnie de José Legault, qui est ici avec moi en studio à Montréal. José Legault, chroniqueuse politique à l'hebdomadaire Voir et au journal de Gazette. Bonjour, José.
Bonjour, Christiane.
Et nous allons échanger. José, il faudrait porter le casque d'écoute.
Oui.
Alors, c'est une première, non pas de parler à Paul Journet, ce n'est pas une première. Un échange avec José Legault et Paul Journet, c'est une première. Et, bon, je pense que c'est depuis la fête du travail que Paul Journet est affecté à la colline parlementaire, maintenant journaliste à la presse basée à l'Assemblée nationale. Bonjour, Paul Journet.
Bonjour, Christiane.
Donc, c'est un peu, c'est plus ou moins une nouvelle, c'est assez une nouvelle affectation pour vous, là.
Oui, j'avais couvert les deux dernières élections sur un blog pour Cyberpresse, mais c'est la première fois que je suis à Québec et que je couvre la politique en direct.
Et est-ce que de votre coup d'expérience à Québec, Paul, est-ce que la journée d'hier a été la plus remarquable?
Oui, ben, j'ai très vite été dépucelé politiquement. C'est particulièrement mouvementé. Depuis le début de la rentrée, en fait, les échanges sont assez fielleux. C'est une rentrée mouvementée avec Bastarache, les gaz de schiste et maintenant avec la loi 115. Mais c'est la première fois que j'assistais à un marathon de 15 heures de débat et j'avais jamais vu les députés comme je les ai vus discuter à 1h du matin. Disons que le ton est un peu plus décalé.
Oui, José, vous, ça fait des années que vous couvrez ça. Est-ce que vous...
Je me souviens que ça.
Non, mais c'est vrai. Vous avez beaucoup d'expérience
là-dedans, ça vous passionne
depuis longtemps. Est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est hors de l'ordinaire?
Bien, c'est-à-dire, on a déjà vu ça avant, mais c'est le contexte qui fait que c'est hors de l'ordinaire, le sujet lui-même, évidemment. Donc, la question linguistique, quelque chose de fondamental au Québec et aussi dans une situation où on est face à un gouvernement qui est très, très impopulaire dans les sondages, qui passe une loi qui va être aussi très impopulaire. Et donc, une opposition qui est gonflée à bloc. On a des ingrédients, là. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que Paul vient de dire, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demander aux gens d'avoir écouté ça jusqu'à 3 heures du matin, là.
Ça a duré jusqu'à 3 heures du matin?
C'est-à-dire plus que ça, là, mais c'est sûr que dans ces heures-là, en effet, si les gens pouvaient regarder, ils verraient leurs députés vraiment au travail, extrêmement bien documentés. C'est presque des avocats qui présentent leur cause, mais très, très bien documenté. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est très différent de l'atmosphère de la période de questions.
Oui. Paul, jusqu'à quelle heure ça a duré?
Ça s'est voté ce matin à 7h30. Il y a eu quelques pauses, mais
je crois que ça a duré. Donc, ils ont travaillé. L'idée, c'est qu'on ne peut pas sortir de là tant que ce n'est pas réglé, c'est
ça? Il y a certaines personnes qui entraient et sortaient, mais les principaux acteurs, ils sont restés, je pense, pour presque la totalité du temps.
Et puis, les échanges qu'on a vus hier, entre autres, l'intervention de Pauline Marois, qui était, je ne sais pas comment la qualifier, très émotive.
Je dirais passionnée.
Oui. Ouais. Paul, qu'est-ce que vous diriez?
Bien, Pauline Marois, l'extrait qu'on a beaucoup vu à la télévision, c'est l'extrait où, elle a commis une certaine maladresse en qualifiant le Québec de petit peuple, mais on ne peut pas douter de son amour pour les Québécois, mais bon, Jean Charest a rapidement repris ça et il s'est amusé à la narguer et il a vraiment sorti hors de ses gonds. Et c'est cet extrait-là qu'on retient, où elle était très colérique, mais pour le reste de la journée, c'est une journée très émotive pour le Parti québécois et le Parti libéral. Et oui, elle était très émotive pour tout l'ensemble de la journée.
Oui, c'est là qu'on voit aussi la différence entre M. Charest et certains premiers ministres précédents. Parce que ce qui s'est probablement frappé Paul aussi hier, c'est que le gouvernement ne répondait pas, ne débattait pas du fond de la question, qui est évidemment son projet de loi, mais attaquait continuellement l'opposition, attaquait continuellement le Parti québécois, était arrivé avec des munitions un peu farfelues là, sur une association inexistante là, avec l'ancien Felkis et tout ça. Et lorsque Mme Marois a dit, et tout de suite, on comprenait ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire démographiquement, un peu nombreux, là, c'est ça qu'elle voulait dire. Eh bien, évidemment, non seulement M. Charest, mais ensuite, d'autres ministres se sont levés et utilisaient cette phrase-là continuellement pour ne pas aller sur le fond de la question. Et on imagine mal.
Est-ce que ça jouait pas? Je suis d'accord avec
vous. On imagine mal des Lucien Bouchard, des Jacques Parizeau, même des Robert Bourassa, là, faire leur chou gras pendant presque toute une période de questions, d'un petit lapsus comme ça.
C'était carrément baveux. Le ton était par moments très baveux.
C'est ça. Ouais, c'était très frappant.
Mais ça ne jouait pas des deux côtés de cette manière-là. Non?
Non, parce que l'opposition posait ses questions. Encore une fois, c'est un sujet fondamental. Là, on attaque, vous savez, c'est le cœur, la langue d'éducation, c'est le cœur de la loi 101. L'affichage, c'est son visage, mais l'éducation, c'est son cœur. Alors, c'est un sujet qui n'est pas seulement émotif, c'est un sujet qui est très rationnel. On débat de ça très rationnellement, mais lorsque vous êtes face à un gouvernement qui non seulement agit, s'en prend au cœur de la loi 101, puis ensuite refuse de débattre le fond, refuse de répondre aux questions, bien, c'est sûr que vous allez créer dans l'Assemblée nationale, puis là, sans oublier la DQ, sans oublier Québec solidaire, vous allez créer une atmosphère très acrimonieuse.
Oui. Et c'était particulièrement frappant hier, la période des questions a jamais été reconnue pour être la période des réponses. Mais hier, il y avait particulièrement beaucoup d'esquives. Je ne sais pas si c'est ce que Sun Tzu disait, qu'on doit plutôt répondre par la contre-attaque plutôt que de se défendre. Mais le gouvernement, on l'a très peu entendu défendre son projet de loi 115 et on l'a très peu entendu parler du fameux cadre d'analyse pour évaluer l'authenticité. C'était plutôt de la contre-attaque et souvent sur deux sujets qui étaient qui ne concernent pas directement le projet de loi 115, comme José l'a mentionné, l'association entre le Parti québécois et l'ancien felkiste Réal Mathieu. On a beaucoup parlé du... on a qualifié le PQ de radical, bref, à cause de ça.
Il y a eu une déclaration de Pierre Curzi, là. Qui a comparé l'imposition du baillon comme comparable à la loi sur les mesures de guerre.
Il y avait beaucoup d'esclandre du côté du PQ, c'est vrai. Je pense que ce matin, Vincent Marissal, ou sur son blog hier, il qualifiait ça d'Halloween deux semaines à l'avance. Il y a eu beaucoup de déclarations assez fortes, par exemple, de M. Curdy, justement, qui comparait ça, oui, à la loi sur les mesures de guerre.
Mais c'est ça, c'est que... Mais... Je pense que notre travail, c'est de ne pas trop passer de temps sur la forme puis regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le fond. Parce que vous savez, vous allez dans des débats très difficiles à la Chambre des communes à Londres ou vous allez à l'Assemblée nationale à Paris, vous allez au Congrès à Washington, vous allez avoir la même chose. Mais ce qui compte, c'est le fond de la question. Et le fond de la question, encore une fois, c'est que pour la première fois depuis l'adoption de la loi 101, un gouvernement du Québec s'en vient ouvrir littéralement le chapitre sur la langue d'éducation et brise non seulement l'esprit, mais la lettre de la loi 101, qui était que tous les enfants, sauf quelques exceptions là, pour des raisons humanitaires ou des séjours temporaires, tous les enfants de parents francophones et allophones vont à l'école primaire et secondaire en français. Là, on a un gouvernement qui, sous prétexte d'obéir à un jugement de la Cour suprême, dit « Bien, si vous avez 30 000 $ pour vous acheter 3 ans dans une école anglaise non subventionnée, eh bien, ensuite, avec une grille d'analyse complètement kafkaïenne, Paul, vous l'avez vu comme moi, que ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, Brent Tyler, l'ancien président d'Alliance Québec, a dit tout de suite, je vais aller contester ça, c'est sûr et certain. Et puis là, on va aller acheter pour son enfant, tous ses frères, tous ses sœurs, tous ses descendants, un certificat d'éligibilité qui va lui permettre à tout ce monde-là ensuite de fréquenter des écoles anglaises subventionnées, qu'elles soient privées ou publiques, pas seulement publiques. C'est inimaginable. Et d'entendre en plus des ministres se réclamer de la mémoire de René Lévesque, de Camille Lorrain, écoutez, même Robert Bourassa, je pense qu'on les entendait tous se retourner dans leur tombe, là. Alors, il y a quelque chose de sans précédent, il y a quelque chose de choquant, il y a quelque chose d'irresponsable là-dedans. C'est des questions complexes, mais encore une fois, on s'attaque au cœur de la loi 101. C'est la première fois qu'un gouvernement du Québec fait ça.
Paul Journet, est-ce que vous avez la même analyse que José Legault?
C'est un débat extrêmement complexe et parfois qui est difficile à résumer en quelques minutes. Il faut remonter à la loi 101, ensuite à la loi 104, au processus devant les tribunaux, la loi 104 qui a été invalidée par la Cour d'appel du Québec, jugement qui a été confirmé à l'unanimité par la Cour suprême, et c'est à cause de ce jugement-là, dont personne ne voulait, parmi les élus, qu'on en est rendu à cette dissension-là à Québec. On avait un consensus en 2002 et maintenant, les deux partis, le PQ et le PLQ, s'éloignent du centre. Puis l'autre chose qu'il faut dire, c'est une question qui est extrêmement complexe et elle est aussi indissociable de la perception qu'on a de l'avenir du fait français au Québec. Parce que les écoles passerelles, comme je crois le Conseil supérieur de la langue française le mentionnait dans son mémoire, les écoles passerelles ne concernent pas pour l'instant un nombre si grand d'élèves. La raison pour laquelle ceux qui s'inquiètent du phénomène le font, bien, c'est parce qu'ils disent que ça fait partie d'un plus grand tout d'ensemble de menaces pour le français dans le Grand Montréal. On peut partager ou non cette analyse-là, mais reste qu'il faut autant considérer le dossier des écoles passerelles dans le contexte plus large du fait français. Est-ce que oui ou non on s'en inquiète et quelle serait la conséquence de la loi 115 sur ça?
Bien, tout à fait, parce que ça, c'est un racket pyramidal, comme je l'appelle. C'est-à-dire que du moment où vous achetez ce droit-là à votre enfant en passant par des écoles non subventionnées, encore une fois, ça va à tous ses frères, tous ses sœurs et tous leurs descendants. Alors, on a fait des calculs, on a fait des simulations en se basant sur les chiffres qu'on a déjà, c'est-à-dire la fréquentation jusqu'en 2002, lorsqu'il y a eu la loi 104 qui a colmaté la brèche. Et on peut arriver d'ici 20 ans à plusieurs dizaines de milliers d'allophones et de francophones, mais surtout d'allophones, qui vont échapper à ce consensus québécois qui était que la langue d'intégration, ici, la langue d'éducation, c'est le français. Ça n'empêche pas d'apprendre l'anglais, ça n'empêche pas d'apprendre d'autres langues, mais ça, c'est la langue, ça brise ce consensus social-là qui était très important et qui est une mesure, qui est peut-être une des mesures principales de défense du français au Québec. Je pense qu'il faut rappeler c'était quoi, vite, vite, la loi 104 en 2002 qu'on a abandonnée, parce que les gens ne l'expliquent pas bien. Et c'est tout simplement, ça disait, oui, si vous avez de l'argent, envoyez votre enfant dans une école privée non subventionnée, il n'y en a pas de problème, mais ça ne pourra pas servir, ce passage-là, de critère pour ensuite vous rendre au ministère de l'Éducation pour demander un certificat d'éligibilité pour votre enfant pour qu'il puisse ensuite passer à l'école anglaise subventionnée. Donc on, respectait, donc, on respectait ce qu'on appelle cet espace de liberté-là, mais ça ne donnait pas la permission et le droit à ces enfants-là de passer ensuite au système subventionné. Alors, Christiane, Paul, on aura compris que c'était une mesure qui était raisonnable, qui était raisonnée, qui était
mais
logique.
Mais c'est ça que la Cour suprême l'acceptait,
moi,
ça,
Christiane. Oui. Moi, j'y étais à l'époque au gouvernement quand on a fait ça. Alors, c'était une mesure très, très, très équilibrée. Et c'est ça que la Cour suprême a invalidé. Et la responsabilité du gouvernement, c'est de ne pas obéir à cette invalidation-là, c'est de protéger le cœur de la loi.
Mais la Cour suprême, en fait, le jugement a été largement décrié. Elle disait deux choses essentiellement. Elle disait, votre objectif est légitime, celui de protéger le français, mais votre mesure est trop draconienne. On aimerait que vous acceptiez certains cas d'exception pour des élèves dont le parcours est dit authentique. Et je me souviens, je pense que c'est Yves Boisvert dans notre journal qui avait dit, en gros, ce que la Cour suprême nous dit, c'est qu'une porte peut être ouverte et fermée en même temps.
Oui, mais Paul, vous savez comme moi que depuis que la Cour suprême rend des jugements sur la loi 101, donc depuis plus de 25 ans, et elle a invalidé plein de sections, elle affaiblit. Elle dit toujours ça. Elle dit toujours, ah, je reconnais l'objectif de protection du français, mais tout ce que vous faites, à nos yeux, c'est toujours exagéré et je vais vous l'invalider.
Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu, ça selon vous, Josée, il aurait fallu faire fi du jugement de la Cour suprême puis continuer comme c'était
avant? Pas faire fi de la Cour suprême, c'est-à-dire il y a des mesures qu'on peut utiliser qui sont tout à fait légales et constitutionnelles et légitimes pour se protéger. On aurait pu, justement, étendre la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Il y a des constitutionnalistes qui pensent que ça prend la clause dérogatoire, d'autres qui pensent que ça ne la prend pas. Mais même si ça la prenait, c'est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, la clause dérogatoire. Christiane, ça fait partie de la Charte des droits. C'est légitime, c'est légal. On en a fait un tabou au Québec. On a scié la branche sur laquelle on était assise. C'est le seul outil de la Charte des droits qui protège la souveraineté des parlements contre l'arbitraire des juges non élus.
Mais encore là, ce n'est pas certain que ça offrirait la protection nécessaire. C'est fort... en fait, on est pas mal certain que Brent Tyler va réentamer un cycle de contestation judiciaire avec la loi 115 et peut-être qu'avec la mesure du PQ, on se serait retrouvé encore là devant des contestations. C'est une possibilité.
Non, mais vous avez lu qu'est-ce que Brent Tyler a dit là-dessus.
Mais oui,
il a dit
parlé,
que c'est ça. Donc, s'il y avait Brent Tyler, c'est l'ancien président de l'Alliance Québec. Et c'est aussi l'avocat qui a gagné la cause contre la loi 104. C'est un militant de l'eau québécois très, très connu. Mais ce qu'il a dit, c'est que si on utilisait la clause dérogatoire, par contre, alors là, ça pourrait... Non, premièrement, il n'y aurait pas de contestation. Et il n'est pas sûr du tout que là, les militants anglophones gagneraient de toute façon en bout de piste. Donc, la clause dérogatoire peut faire une énorme différence.
Il a dit que ce serait plus difficile, en effet, avec la clause dérogatoire.
Paul, à Québec, les autres partis, là, bon, Québec solidaire, la faible représentation, présence physique de Québec solidaire, mais quand même, les membres de l'ADQ, est-ce que ça s'est joué vraiment entre les libéraux et les péquistes ou il y a eu quand même des par rapport aux interventions signifiantes, là, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues des autres partis?
Amir Kadir de Québec solidaire a essentiellement la même position que le Parti québécois. L'ADQ a une position plus mitoyenne, mais de toute façon, le gouvernement est majoritaire, donc...
Mais est majoritaire par un film, mais majoritaire quand même.
Ça veut dire quoi? Bon, il y a eu une manifestation qui a eu lieu hier devant les bureaux de Jean Charest. On évalue à 1500 personnes.
Ça dépend des journaux qu'on lit, hein, oui. Parce que, bon, certains médias ont dit 1500, d'autres sont allés jusqu'à 5000, donc...
Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que ça va évoluer, ça, ce dossier-là, ça va passer, puis on n'en parlera plus dans une semaine? Ou c'est un dossier qui peut devenir un enjeu électoral et puis comme grossir?
Mais je pense que ça va dépendre de la pédagogie qu'on va faire sur cette question-là. Et là, je ne parle pas seulement des partis politiques, là, mais je parle aussi au niveau de l'analyse, c'est-à-dire d'expliquer vraiment qu'est-ce que va faire le projet de loi 115, qu'est-ce que faisait 104 et quel est vraiment l'enjeu derrière
tout ça. Qui va faire cette pédagogie-là?
Ben, en tout cas, j'essaie de le faire dans mes textes, là, on essaie de le faire, parce que la question linguistique depuis 15 ans est devenue une espèce de tabou politique. Ça a commencé sous Lucien Bouchard. Et c'est pourtant au cœur de ce qu'est écoutez, c'est le seul trait qui nous distingue du reste de l'Amérique du Nord. Donc, en quelque part, c'est très, très important. Il faut faire cette pédagogie-là. Maintenant, ça va être à la population de décider si elle se mobilise ou pas pour ça. Bon, le PQ, lui, a promis que s'il était élu, il allait évidemment renverser cette loi-là. D'ailleurs, Sylvain Simard, cette nuit, vous l'avez peut-être entendu, Paul, du PQ, a dit « Je conseille pas aux parents qui voudraient investir dans les écoles passerelles de le faire. Gardez votre argent parce que si on prend le pouvoir, on va vous annuler ça. Mais ça va dépendre beaucoup du degré de mobilisation de la population.
Les contestations, elles devront... de toute évidence, attendre à l'année prochaine les contestations juridiques. Mm-hmm. Et si jamais il commence à y avoir des contestations, ben là, l'enjeu pourrait être animé et lors de la prochaine campagne électorale, s'il y a déjà de plus en plus de contestations, si on est capable d'y chiffrer, d'en faire un enjeu politique, oui, peut-être que ça pourrait influencer les intentions de vote.
Oui, est-ce que vous avez senti hier, Paul, à Québec, qu'il y a quand même le poids de ce vote-là, le poids de cette décision-là, que l'heure était grave? On a parlé de la forme, là, mais est-ce qu'on sentait une gravité dans la décision qui était prise, le vote?
Depuis un mois, on a toujours l'impression que l'heure est grave quand on entend entre autres l'opposition parler, c'est des gaz de schiste, la commission Bastarache et maintenant de la loi 103-115. Mais particulièrement, oui, hier, on sentait une certaine émotivité très palpable.
Oui. Qu'est-ce qu'on dit en coulisses sur ce projet de parti qu'on associe toujours à François Legault, Paul à Québec? Qu'est-ce qui se dit en coulisses? On prend ça au sérieux?
On a premièrement hâte de voir les manifestes. Hein. Il faut se rappeler, le projet, pour l'instant, c'est une série de manifestes qui se préparaient. Maintenant, quant à savoir s'il va y avoir un parti politique, ça reste une hypothèse. Donc, on a bien hâte de voir la suite des choses.
José?
Ben moi, ceux qui me lisent ça, je ne crois pas du tout que ça va devenir un parti politique. Je pense que c'est en effet un groupe de réflexion qui veut jouer un rôle sur la place publique, qui veut influer sur le débat. C'est aussi un croc en jambe assez majeur à Pauline Marois, puisque ça proviendrait de deux ex-ministres péquistes. On parle de François Legault, mais il ne faut pas oublier Joseph Facal non plus, qui reste très silencieux depuis quelques temps. Non, je pense que... Et ça fait partie aussi de la montée de la droite. Hein? Bon, alors, c'est un groupe qui se présente comme un groupe de centre-droite, mais bon, qui est plus à droite que centre-droite. Donc, ça fait partie de tout ce mouvement-là aussi qu'on voit à travers l'Occident. Et puis évidemment, mettre de côté la question nationale. On a vu un sondage qui montre que la majorité des Québécois ne veulent absolument pas mettre de côté la question nationale.
Mais quand même, il y a plus de gens qu'auparavant, c'est vrai, mais en même temps, il y a plus de gens qu'auparavant qui sont prêts à le faire.
Bien, c'est normal, Christiane, parce qu'il y a une double impasse. Alors, les fédéralistes libéraux ne font plus aucune demande constitutionnelle depuis les échecs de Mitch et Charlottetown. Et le Parti québécois ne s'engage pas à tenir un référendum parce qu'il a peur d'en perdre un. Donc, les Québécois sont face à deux impasses dans les deux options. Alors, c'est sûr que parfois, ben, on peut créer une illusion de ce point de vue-là, mais quelle que soit la position, la majorité des Québécois, comme sur la question de la langue, tiennent à ce que la question nationale ne soit pas enterrée.
Paul, allez-y.
Oui, mais c'est aussi un grand scepticisme affiché par les gens qui seraient dans cette coalition-là envers le PQ et le PLQ. Il y a plusieurs observateurs qui se demandent, avoir un programme de centre-droit, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se faire à l'intérieur du PQ ou du PLQ?
Mais en fait, le PLQ est déjà assez clairement campé au centre-droit. Là.
Mais vous dites que c'est, comme je ne sais pas quel terme, vous avez un croc en jambe à Pauline Marois.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi ne pas le faire à l'intérieur du PQ? Pourquoi être sorti du PQ pour le faire? Pourquoi le faire de l'extérieur?
Écoutez, regardez l'approche qu'il propose et puis ça répond un peu à votre question. En un sens
par rapport à l'idéologie, oui.
Et puis par rapport aussi au fait qu'on a affaire, M. Legault est un ancien rival au leadership de Mme Marois. ce ne sont pas nécessairement de grands amis. Là.
Ouais. J'entendais ce matin, à l'émission de Renaud Miroir, je pense, on parlait vraiment du fait qu'entre Pauline Marois et Jean Charest, parce que souvent, même s'ils sont adversaires en chambre, ces gens-là, au fond, s'aiment bien, se côtoient et se reconnaissent à part entière comme des individus, des adversaires, mais d'une manière assez noble. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'ils s'entendent particulièrement pas ces deux-là, et qu'ils ne s'aiment pas?
Je ne suis pas dans leur tête, mais c'est vraiment ce que je perçois. Souvent, c'est drôle, quand Pauline Marois a fini de parler, elle fixe Jean Charest droit dans les yeux comme si elle voulait le pétrifier. Et Jean Charest, lui aussi, la fixe, parfois le regard impassible, parfois avec un petit sourire. On sent vraiment que ça dépasse le cadre des rivalités qu'on a pu voir entre un ancien premier ministre et le chef de l'opposition. C'est une perception, mais il semble du moins y avoir une animosité particulièrement présente.
Oui, puis on le sentait aussi lorsque André Boisclair était là. Hein, il avait la même animosité entre M. Charest et André Boisclair. C'était vraiment hargneux.
Mais c'est la
fonction
qui provoque ça chez lui ou ce sont ces individus-là?
Bien là, écoutez, je ne sais pas. Il y a peut-être des traits de personnalité. Je ne le sais pas. Du côté aussi, M. Charest fait des débats qui sont très hargneux en chambre. Hein, il faut quand même le voir aussi. Puis on n'est plus dans la même époque politique. Vous savez, des fois, je dis aux gens... je vais faire une publicité, là. Peut-être je vais pas... En tout cas, il y a un restaurant à Montréal, sur la rue Chérié, très connu, où il y a une photo, je ne sais pas si elle est encore là, mais on voit une photo de Jacques Parizeau avec Robert Bourassa.
Sur la rue Chérié, au coin de Saint-Denis?
Ben quelque chose de même, tu sais, mettons.
Saint-Denis, coin sud-est?
Ben oui. Et il y a une magnifique photo de Jacques Parizeau et de Robert Bourassa au début des années 90, où on voit... qui a un respect, même dans leur regard et leur sourire, puis y avait-tu plus opposé que Robert Bourassa et Jacques Parizeau sur bien des questions? Et on voit, parce que c'était deux hommes qui avaient vraiment le sens de l'État et le sens des institutions, et on voyait ce respect, et cette complicité-là, même dans les désaccords, et ces deux hommes-là étaient là pour travailler pour le Québec. Et tout est dans cette photo-là. Et moi, je trouve que, tantôt vous avez dit, ça fait bien des années que je couvre la politique, mais je trouve que tout ce que j'ai couvert à une époque un peu plus intéressante, peut-être, mais en tout cas, c'est dans cette photo-là. Et là, je verrais mal aujourd'hui.
La photo?
Non.
La photo d'aujourd'hui. Alors,
oui.
Paul Journet, à Québec, ils prennent congé aujourd'hui, j'imagine. Là, tout le monde se repose puis
non,
est en train de dormir.
Je vous quitte, il y a un point de presse de Pauline Marois.
Ce matin-là?
Oui.
Et il y a une période de questions cet après-midi.
Bon, ben alors, des heures de plaisir, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Paul Journet.
Merci, Christiane.
Paul Journet, journaliste à la presse, basé maintenant à l'Assemblée nationale. José Legault, chroniqueuse politique à l'hebdomadaire Voix et au journal de Gazette qui était avec nous ici en studio à Montréal. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.